Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Et d'ailleurs, nous sommes le mercredi 29 mai en direct de 19h à 20h et cette émission, vous pourrez la retrouver demain en rediffusion jeudi 30 mai de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr et sur Spotify. Chères auditrices, chers auditeurs, l'état du monde vous préoccupe et les tracas du quotidien aussi. Quelle solution à nos problèmes globaux et individuels? Comment concilier fin du monde et fin du mois? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi de 19h à 20h, nous tendons le micro à une personne qui vous propose sa façon de répondre à ces questions. Une actrice ou un acteur des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. L'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation à créer sa juste place, du moi au nous et du nous au tout. Je suis Marin Moffret et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Jeanne Hénin. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Marin.
Et nous sommes accompagnés de Claire Mayou. Bonsoir Claire.
Bonsoir à tous et toutes.
De Mathieu Cheminal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous et toutes.
Et nous avons Lucille Jourde Moliac.
Moalic.
Pardon, j'ai du mal à le prononcer ce soir. Qui est en régie et qui rend cette émission possible. Bonsoir Lucille.
Bonsoir.
Et sans plus attendre, donc Jeanne, nous allons te donner la parole. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, eh bien, c'est toujours un peu le même programme. C'est le moi, du moi au nous et du nous au tout. Et donc la question de savoir comment est-ce que les questions qu'on a eues du parcours qui nous a formés, on s'est engagé. Et de cet engagement, comment est-ce qu'on arrive à transformer le monde à son échelle. Je te laisse dans un premier temps peut-être nous présenter eh bien, qui tu es, ce qui est déjà une gigantesque question.
Alors, je vais commencer simple. Je m'appelle Jeanne, j'ai la quarantaine, j'habite Marseille donc, j'ai 3 enfants et je travaille sur les sujets de bascule écologique et de lutte contre les inégalités depuis une 15aine d'années.
Ok. Et alors, depuis une 15aine d'années, est-ce que c'est qu'il y a eu une bascule entre avant les 15 ans à maintenant?
Non, moi j'ai toujours travaillé sur ces sujets-là. Donc j'ai fait mes études et après mes études, j'ai commencé par travailler dans une ONG au Cambodge sur de l'insertion professionnelle. Après, j'ai travaillé sur les énergies renouvelables. Après, j'ai fait du conseil en transition écologique et développement durable, comme on disait à l'époque dans le début des années 2000. Mmh. Et je faisais des agendas 21 qui sont des plans d'action au niveau d'une ville ou d'un territoire. Je faisais des stratégies et plans d'action développement durable. Et après, je suis partie travailler dans une institution publique. J'avais envie de tester un autre endroit d'action, un autre lieu. Et j'ai travaillé pour l'Agence française de développement, à la fois au début sur l'évaluation environnementale des projets et l'évaluation de leurs impacts sur le développement, donc en termes d'impôts, d'emplois, etc. Et après, j'ai travaillé sur les sujets de formation et d'accompagnement des entrepreneurs sociaux et environnementaux africains. Pour finir dans cette organisation-là, à travailler sur la mise en avant des savoirs ancestraux africains qui sont souvent peu valorisés par les programmes de développement pour les mettre au cœur des pratiques et permettre aux personnes qui sont dans le pays de se former à ces sujets-là quand ils sont moins accessibles. Et après, j'ai quitté cette institution-là et je me suis mise à mon compte pour travailler sur toujours les mêmes sujets, bascule écologique, mais du coup au niveau individuel, par des pratiques de connexion à la nature et via une performance artistique et via de l'artivisme. Donc où je travaille aujourd'hui plutôt sur comment reconstruire notre lien au vivant par des expériences de connexion à la nature. Et je travaille aussi sur le langage en essayant d'ouvrir des espaces où les individus de différents endroits du monde, de différents milieux, de différents secteurs professionnels peuvent raconter qu'est-ce qu'ils vivent de la crise écologique et sociale dans un espace qui est dédié à ça, qu'on appelle une performance.
Artivisme, qui est une notion qu'on avait vue avec toi, Claire, quand tu étais venue présenter Tax and Roll avec des personnes qui étaient spécialement engagées dans un mouvement qui s'appelle Le Vent.
Le bruit qui court.
Ouh là là, ce soir j'ai du mal avec le fait que tout s'entremêle dans ma tête. Mais donc c'est le mélange entre de l'activisme et de l'art. Et donc tu nous parles de cette relation à la nature. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cet amour que tu as de la nature ?
Pas facile. Moi j'ai grandi près d'une forêt, mais pas comme celle qu'on trouve à Marseille. J'ai grandi près d'une forêt de feuillus, en ville, en banlieue. Et à côté il y avait la forêt et des terrains vagues aussi. Donc pour moi, la nature, c'était au début surtout un temps de liberté. C'était le temps où je pouvais sortir de chez moi et m'échapper et aller jouer à Nicolas Hulot dans les Télins Vagues. Donc on faisait semblant d'aller découvrir des nouveaux endroits et on racontait comment ils étaient. Et j'ai passé beaucoup de temps à la fois dans ces coins de bord de route et dans cette forêt qui est à côté de Paris. Et du coup, je crois que mon lien à la nature s'est développé là. Et après, plus tard, hein, par des randos, bivouacs, des temps dehors plus longs. Mais ça, c'est plutôt adolescente et jeune adulte.
Et sur la question de l'amour, toujours, il y a la question de l'amour des mots. On va beaucoup en parler ce soir. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours traversé ? Là, tu nous as présenté tout ce parcours. Ou à un moment, tu nous as dit que tu avais quitté les institutions pour aller plus vers la question de l'accompagnement des individus dans un rapport qui est plus sensible et où les mots ont une place très importante. On va d'ailleurs parler de ton livre juste après, les mots qu'il nous faut. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur en fait, quelles ont été les prémices de ton cheminement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours beaucoup touché ?
Écoute, moi, je viens d'une famille binationale, donc allemande et française. Donc petite, j'habitais en France, mais je ne parlais pas français, je parlais que allemand. Donc après, j'ai dû mélanger le français à l'allemand en rentrant à la maternelle. Et donc j'ai joué avec les langues très jeune. Et j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien avoir un mot dans une langue qui me paraît plus juste qu'un mot dans une autre langue. Et le fait d'être enfant habitué à pas toujours avoir le bon mot, ça m'a autorisé aussi à jouer avec. Après, je suis allée habiter dans différents pays. Et j'ai à chaque fois un peu enrichi ma palette avec des mots de ces pays-là. Mais pas que des mots de comment eux disent un nom commun qui est le même partout, mais aussi des perceptions qui sont peut-être culturelles, qui sont plus liées à un vécu dans un pays qui se dit d'une certaine manière. Et donc ça, j'aime bien les garder, jouer avec et essayer de tisser à partir de ça. Donc oui, j'ai toujours joué avec les mots. Mais je pense que c'est surtout une question d'autorisation. Enfin, disons que j'ai eu l'autorisation de jouer avec les mots parce que j'ai grandi dans un environnement multiculturel. Alors que je pense qu'il y a des environnements où il n'y a qu'une langue, où on vous demande plus d'aller sur la langue officielle et c'est comme ça qu'on dit les choses. Alors que moi, on ne m'a pas dit « c'est comme ça qu'on dit les choses ». On m'a dit « oui, mais vas-y, essaye de le dire en français ou essaye de le dire dans la bonne langue ». Mais j'avais le droit de jouer.
Et d'ailleurs, le livre que tu as écrit, qui est... Les mots qu'il nous faut, est-ce que parfois tu as eu l'impression qu'il y avait des mots qui te manquaient ?
Ah ben, il est né de ça. Il est né du fait qu'il y avait des mots qui me manquaient. Il est né de... Du coup, c'est 15 années dans le sujet, dans lesquelles j'ai vraiment dû beaucoup intégrer. C'est quand même un sujet qui a beaucoup changé sur les 15-20 dernières années. Le sujet de la prise en compte de l'écologie, à la fois dans la sphère publique, la sphère professionnelle et individuelle. Et du coup, j'ai beaucoup lu de rapports, j'ai beaucoup lu de construits de plans d'action. Et en fait, le champ lexical utilisé me paraissait toujours un petit peu abstrait. Et moi, j'aime beaucoup les histoires, j'aime les contes, j'aime la poésie. Et donc, je ne trouvais pas de lien entre les choses théoriques que je lisais, que je comprenais avec mon cerveau, et les vécus ou l'émotion que je pouvais en retirer. Et donc, en fait, j'ai eu besoin d'ouvrir tout a commencé par une rencontre, évidemment. La rencontre de deux artistes américaines, Heidi Quante et Alicia Escott, qui ont créé en 2014, donc il y a plus de 10 ans, ce Bureau of Linguistical Reality. Donc, elles ont appelé ça le Bureau de la réalité linguistique. Mmh. Et leur idée, c'était de se dire comment on rencontre des réalités qui, aujourd'hui, n'ont pas de mots, en lien avec la crise climatique. Elles ont beaucoup travaillé sur le sujet du climat. Et du coup, elles ont posé cette œuvre et elles la suivent depuis ces 10 ans. Et moi, je les ai rencontrées à distance, évidemment, puisqu'elles sont à San Francisco. Et je me suis intéressée à la forme qu'elles portaient. Et on a essayé de se rencontrer. J'ai essayé de les faire venir. Ça ne marchait pas. Et donc, finalement, j'ai pris leur performance pour un temps, en travaillant avec elles, pour essayer d'ouvrir cet espace-là de création de mots, mais surtout de partage de vécu. Et cet espace dans lequel il est possible de raconter ce qu'on vit de façon bienveillante et sans aucun jugement, sans aucune attente de résultat, sans aucune attente de sensibilisation ou de formation. Donc j'ai ouvert cet espace depuis 2 ans avec Ticia Naton, mon amie qui est, elle, cueilleuse de plantes sauvages, entre autres choses.
Et quand on lit ton livre, qui se retrouve pour celles et ceux qui le cherchent aux éditions de La Mer Salée, il y a écrit derrière que tu poses tes tables et tes stylos dans la rue, les festivals, les rencontres et les débats climatiques. Des passants, des passantes s'arrêtent alors à ton bureau des mots et commence ensuite un échange sur les émotions qui nous saisissent, sur les situations que nous vivons, sur le monde qu'on imagine et pour lequel il n'existe pas de mots. Tous ces manques qui nous habitent et dont nous ne savons que faire, ensemble, il et elle inventent des mots qu'il nous faut pour qualifier notre présent et projeter un autre futur. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, si par exemple nous on arrivait à ton bureau, des mots, qu'est-ce que tu nous proposerais? Comment se passerait cette rencontre?
Bien sûr. Alors déjà, on arrive toujours en lien avec un partenaire de l'endroit qui nous accueille. Donc soit une association qui travaille dans ce quartier-là, soit, on était allé voir il y a 2 ans, un centre de recherche en Camargue qui est vraiment posé dans les marais. Ou alors on était aussi à Arles dans le cadre d'un festival. Donc on est toujours en lien avec une structure locale, du coup, qui nous accueille et qui nous donne un lieu où s'installer. Donc on pose ce bureau. Et derrière nous, on a des mots affichés, des mots qui ont été créés lors d'autres sessions, qui sont des néologismes ou des mots valises, des mots un peu originaux, un peu bizarres. Et donc les gens les voient, les gens passent. Souvent, on se met à un endroit où il y a un peu de passage, mais pas trop non plus. Et les gens passent et voient ces mots, s'arrêtent et commencent à se dire « Bon, bah, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là ?» Et nous, c'est donc Ticiane, mon amie et moi, et on reprend en partie la forme, on est au service de cette forme qui a été créée par Alicia et Heidi. Et donc, on a une tenue un peu sombre, on a des grandes lunettes, parfois on a une vieille machine à écrire, et un carnet avec plein de pages blanches et des stylos. Et donc, on propose aux passants qui s'arrêtent, ceux qui sont intéressés. Donc, on va pas chercher le passant, on va juste parler avec ceux qui ont envie de s'arrêter. Et on leur dit, qu'est-ce que vous vivez, vous, de cette période de crise écologique et sociale? Quelles émotions? Qu'est-ce que vous traversez comme expérience? Voilà, on va vraiment partir de ce que eux vivent. Et donc, je vous inviterai à vous asseoir et je vous dirai cette phrase-là. Que vivez-vous dans cette période de crise écologique et sociale? Et alors, commence une discussion qui peut prendre de 5 minutes à une heure et demie. Et dans laquelle nous, on est complètement au service de ce qui se crée à ce moment-là, donc de ce que la personne a envie de dire. Donc, toute la subtilité de l'affaire, c'est de ne pas influencer, de ne pas emmener à droite ou à gauche, mais vraiment de permettre de partager et d'aller creuser un peu les subtilités de ce que la personne a envie de dire. Donc, souvent, on va toucher des sujets de friction, de contradiction, des sujets qui habitent la personne par rapport à quelque chose qu'elle a vécu et qui est problématique ou qui la questionne ou qui la touche sur ce sujet de crise écologique et sociale.
Est-ce que tu dirais de toi que tu es une thérapeute de la collapsologie ?
Oh là 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 là. Alors, thérapeute, je ne sais pas, collapsologie, je ne sais pas. Si tu veux, on peut dire une sage-femme. Une sage-femme dans le sens accoucheuse.
Une accoucheuse de mots.
Voilà, je dirais plutôt une accoucheuse d'histoire. Voilà, la thérapeute, pour moi, il y a quelque chose du soin officiel qui ne correspond pas réellement à ce qu'on fait, même s'il y a des vertus réelles à cette performance, parce que vivent les gens dans cette performance. Et collapsologie, c'est aussi un parti pris avec lequel je ne saurais que tresser.
Justement, le terme collapsologie, c'est quelque part un néologisme aussi. C'est un terme qui a été créé de l'anglais collapse, s'effondrer. En français, on dit d'ailleurs l'effondrement, mais logie, c'est justement la science, étymologiquement. Il y a aussi l'éco-anxiété, qui est un néologisme qui est bien répandu désormais. C'est devenu c'est dans le langage courant. Est-ce que toi, tu as pu observer d'autres termes qui se sont peu à peu ancrés dans nos sociétés concernant les besoins? Là, par exemple, tout à l'heure, en feuilletant ton livre, on a vu le terme « bublistance », et ce terme qu'une amie, Laure, si tu nous écoutes, m'avait partagé et qui avait beaucoup résonné. Voilà, je me demandais si toi, tu avais déjà eu des retours dans ton entourage de personnes qui utilisent les termes que vous avez créés. Et comment tu pourrais percevoir l'ancrage d'un nouveau mot à l'échelle d'une société?
Alors déjà, pour les deux premiers mots que tu cites, la collapsologie et l'éco-anxiété, je pense que c'est des mots qui ont émergé parce qu'il y avait un besoin de caractériser ces sujets-là à ce moment-là. Donc on pourra citer aussi Solastalgie, qui a été inventée par Glenn Albrecht, un chercheur australien, qui a inventé tout un dictionnaire des émotions liées à la Terre. Donc, c'est des mots pour lesquels il y avait en effet un besoin de caractériser des choses nouvelles qui ne trouvaient pas de mots dans le dictionnaire existant. Donc, je trouve ça hyper intéressant et hyper utile de voir ces mots apparaître. Après, la démarche qu'on a, nous, elle est assez différente parce que nous, on ne crée pas les mots nous-mêmes. En fait, on se met au service de... c'est un peu comme un écrivain public, tu vois. On se met au service de cette personne qui est assise en face de nous et qui a envie de raconter quelque chose. Et donc, on l'aide à créer un mot. On n'a pas forcément besoin de l'aider, mais on est à son écoute et on lui propose des questions pour qu'elle arrive à tisser ce mot-là. Donc, on tisse les mots qui correspondent à des réalités vécues ou à des émotions vécues. Et il se trouve qu'en faisant ça, on voit apparaître des tas de sujets qui sont des sujets très partagés. Donc, j'en arrive à la réponse à ta question. Oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent certains mots et qui me disent après... Alors, ça arrive à la fois dans les conversations que j'ai avant que les gens connaissent le mot. Donc, j'ai des conversations avec des gens qui me disent « Non, mais tu sais, moi, c'est ça qui m'arrive. » quand, à la fin d'une conférence que j'ai faite sur les plantations de haies chez les agriculteurs avec des écoles, on me dit « Bravo, c'est super ce que vous faites. » Et moi, je me sens un peu déçue, fatiguée d'entendre ça. Comment ça se fait? Comment ça s'appelle? Donc, je dis « Bah oui, mais ça existe. Ça, c'est encouffardé. C'est encourager et fardeau. » Donc c'est « je te laisse le fardeau de l'action ». Moi, la personne qui vient te voir après la conférence, je te laisse le fardeau de l'action, je te dis « bravo, c'est très bien ». Mais par contre, moi, je ne me mouille pas. Donc c'est un encouragement qui a valeur de fardeau en réalité. Donc ça, c'est juste pour te donner un exemple. Et donc, il arrive souvent que des gens utilisent des mots. Et moi, je suis toujours très étonnée de qui utilise quel mot et quels mots font écho chez qui. Parce que je ne soupçonne pas à leur création quel écho ils vont avoir. Et donc, il y a donc la bublistance que tu citais, encouffardé, la thermopène que tu citais. La thermopène, c'est quand on a une émotion forte plutôt de l'ordre de la peine par rapport à une température qui est éloignée des normales saisonnières. Quand on est triste qu'il fasse beau au mois de janvier, par exemple. Donc oui, on me cite des mots et mon objet, mon intention... L'objet de ce livre, c'est vraiment que des conversations naissent à partir de ces mots, un des objets des intentions, que des conversations naissent et que ces mots soient utilisés et soient utilisés aussi comme réponse à certains mots qu'on ne veut pas entendre et comme réponse à la non-connaissance des vies des uns et des autres dans cette période de crise écologique et sociale. Il y a quelque chose dans les lectures qu'on peut avoir dans les médias qui sont largement diffusées, où on ne voit pas une grande partie des histoires vécues, que ce soit ailleurs qu'en France, ou que ce soit dans des milieux sociaux variés, ou que ce soit dans des ruralités, des villes, des endroits différents. Donc en fait, mettre ces mots-là et les mettre dans la conversation et les pousser pour qu'ils soient le plus utilisés possible, c'est pour moi aussi une façon de mettre ces histoires au cœur du débat et de leur donner une... Ça permet aussi au lecteur de faire sa part, de se dire « Ah oui, ok ». Il existe cette réalité-là aussi. Peut-être que je ne la connais pas, mais peut-être qu'en la connaissant et en la connaissant par le vécu d'une personne, je peux pas m'y identifier, mais ressentir une tendresse pour ce que vit cette personne-là, et du coup mener une action qui va être de l'ordre de la lutte ou de l'ordre d'une action en faveur des transitions.
Oui, quelque part, citer cette action, citer ce nouveau mot, c'est assurer son existence. Enfin, ça la rend réelle, le fait que le terme soit utilisé par un récit, par une expérience, un témoignage. Ça permet de s'identifier et d'aussi d'en comprendre le contexte, parce que quand on l'utilise, peut-être que le mot est balancé à la volée et on n'a pas forcément le temps de le décortiquer pour bien le comprendre. Mais avec tous les éléments de contexte, ça permet des fois de raccrocher et après de l'utiliser pour qu'il rentre dans le langage commun.
Exactement. L'idée de se dire, c'est si on ne connaît pas les histoires et les vies de chacun dans cette période, et surtout des personnes qui sont le plus touchées ou des personnes qui sont vraiment sur le devant des lignes de l'action, du coup, on ne peut pas défendre, on ne peut pas agir non plus. Donc, en fait, il y a aussi une question de rendre visible la complexité de ces sujets-là et aussi de prendre parti. Typiquement, il y a un mot que je voudrais vous citer, c'est un mot qu'on a inventé pour contredire le mot d'extinction de la biodiversité. Parce que dans le sentiment d'extinction de la biodiversité, nous, on entendait surtout un feu qui s'éteint dans l'âtre, ou alors perte de la biodiversité, donc un tournevis que j'ai perdu en bricolant. Et donc c'est des actions très passives. Et donc on a inventé le mot externité, exterminer pour l'éternité. Et on voulait qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus brutal, de beaucoup plus douloureux, qui soit rendu visible pour que cette notion-là, qui est quand même la tragédie ultime, quoi, la disparition pour toujours de certaines espèces qui ne peuvent pas renaître, qu'il y ait un mot à la hauteur de la force de ce thème-là, différent de ceux existants qui nous paraissaient trop édulcorés et qui nous paraissaient presque des instruments d'un discours qui autorisait cette fin de la biodiversité.
Ça ouvre des champs de possibles. Ça ouvre des champs de possibles sur le fait de remplacer une périphrase par tout d'un coup un mot qui arrive. Tout à l'heure, tu disais que tu étais une sage-femme de la parole, etc. Malgré tout, moi, ce que je trouve assez fort, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle la langue des oiseaux, où on peut avoir prononcé les choses de la même façon, mais en fait, ça signifie quelque chose. Et dans le mot, il y a M-O-T et il y a M-A-U-X. Et donc, ça permet aussi de pouvoir mettre des mots sur les mots et d'être précis là-dedans. Est-ce que tu as le sentiment parfois que ça fait une délivrance pour certaines personnes qui se disent « Ah, en fait, ça a ouvert ce champ de possible qui me triturait l'esprit, mais maintenant, ça devient clair.
» Merci, Marin, pour la langue des oiseaux. Écoute, oui, on a l'impression que après une séance, alors déjà, il faut que je fasse une petite digression. Souvent, on me demande, est-ce qu'il y a aussi des mots positifs, des mots joyeux? Est-ce qu'on entend des mots voilà, parce qu'il y a beaucoup de mots qui correspondent justement à des mots, à des émotions négatives ou à des choses, des contradictions, des frictions, des choses qui travaillent. Et donc, ce moment où on ouvre le bureau des mots, c'est un temps où les personnes peuvent partager ces sujets-là, aller les creuser. Et c'est un moment hyper joyeux, en fait, où on rit beaucoup. On rit parce que la personne raconte des choses qui peuvent être cocasses dans leurs difficultés aussi. Et on rit aussi parce qu'on libère quelque chose de la création. Donc, en fait, la personne, non seulement elle partage un vécu avec quelqu'un en face qui n'a pas pour ambition de la convaincre ou de la sensibiliser ou de la former. Donc, on est vraiment juste là pour les écouter et pour les aider à créer. Et donc, la personne reprend un pouvoir de création. Et ça, pour moi, c'est hyper transformateur. Je l'ai vraiment observé dans le temps, en fait, en menant cette performance-là, de voir qu'une fois que la personne crée quelque chose, il y a quelque chose qui se libère de « Eh bien, voilà, moi, c'est mon mot, j'ai créé ça. Donc, je peux le dire, donc il existe, donc je peux en parler. » Et il y a surtout ce mécanisme de la création. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une puissance de création possible chez l'être humain, qui est assez peu valorisée et qui est assez peu largement répandue, Alors qu'en réalité, est-ce qu'on n'est pas tous artistes ou artisans ou créateurs? Et donc, en fait, en remettant à la fin de ce moment de création du Bureau des mots, en remettant la possibilité de création, on libère quelque chose aussi qui peut être réutilisé après. En fait, c'est comme quand on a goûté à créer quelque chose. Après, on a re-envie. On se dit, ah bah oui, bah finalement, je vais recréer quelque chose. Tiens, je vais créer une recette ou alors je vais créer un moment ou alors je vais créer... Et donc ça, pour moi, c'est un moteur d'action extrêmement important.
Oui, alors moi, je me suis amusé, à juste avant l'émission, à aller sonder les émotions un peu de l'Académie française. Et j'ai regardé les nouveaux mots du dictionnaire 2024. Et parmi ceux-là, pas mal sont liés à la transition écologique et sociale. Je vous en cite quelques-uns. On a surtourisme, éco-geste, empouvoiré ou encore méga-bassine. Est-ce que du coup, ce n'est pas le signe d'une préoccupation collective, d'un usage répété et multiple de ces mots? Et ma deuxième question, c'était comment certains mots, ces mots qu'on utilise pour qualifier la transition écologique et sociale, finissent par rentrer dans le langage, dans le dictionnaire? Comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe l'entrée dans le dictionnaire? Ça, faudra le demander à l'Académie ou au Robert, au Petit Robert ou au Larousse. Ce que je peux te dire, c'est que mon observation des années avant 2024, c'est aussi que les mots qui rentrent dans le dictionnaire, de ce que j'en perçois, c'est beaucoup des mots qui sont très utilisés liés à une actualité, celle du coronavirus, où il y a eu beaucoup de mots qui sont rentrés liés à la crise sanitaire. Ensuite, il y a eu beaucoup de mots qui sont rentrés aussi liés aux usages technologiques. Donc, par exemple, « cliquer collecter ». C'est rentré, je ne sais plus, dans les années 2020 ou 2022, « cliquer collecter ». Et donc, en fait, il y a aussi la reprise dans des mots officiels, la traduction dans des mots qui se veulent officiels de nos réalités vécues. Et donc, mon sentiment aussi qui nous a poussé à mettre en œuvre ce bureau en France, c'était aussi de se dire, il y a une infinité de mots liés à la techno dans notre quotidien, et on ne parle pas ni de pâquerette, ni de champ de l'alouette, ni de... voilà. Et donc, en fait, remettons ces sujets-là aussi, et remettons des mots qui soient liés à l'émotion, qui soient liés au vécu, par opposition aux mots qui viennent d'une constatation théorique d'occurrences qui sont traduites dans un dictionnaire.
Moi, j'ai quand même le sentiment, en lisant un certain nombre de mots, qu'il y a une approche qui est plus militante qu'uniquement un mot qui arrive par rapport à une actualité qui vient de débarquer. Par exemple, là, je vais vraiment parler en mon nom parce que j'ai envie de faire passer ce message-là. Il y a le concept de cynicratie, qui est une organisation politique ou internationale qui, tout en donnant l'impression de se saisir des enjeux de son temps, climatiques, sociaux... j'ai rajouté sociaux, reste immobile et insensible face aux urgences évidentes. Et par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment même autour de notre mer Méditerranée, à Rafah, à Gaza, ce mot-là, il me parle de se dire mais on est complètement cynique et on laisse faire. Et au prétexte de positions bien pensantes, en fait, on laisse la barbarie se positionner. Et donc, c'est aussi des mots qui, pour le coup, empouvoirent, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, parce qu'on a un terme qui permet d'opposer ce qui est en train de se passer, quoi.
Oui, et pour moi, ce qui est important, c'est que ces mots viennent de réalités vécues. Et donc, dans ce sens-là, ils ont une valeur qui est celle du témoignage et qui est celle d'une réalité vécue par une personne. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contredire, en fait. On ne peut pas dire « cynicratie, ça n'existe pas ». On peut dire « Edgar Kidane a vécu des projets dans son pays où il a eu l'impression de ne pas être soutenu du tout ». Donc c'est la personne qui a créé ce mot de cynicratie, où il a eu l'impression qu'il y avait des institutions, il y avait des programmes en place, on lui demandait d'écrire des plans d'action, il y avait des financements qui étaient censés arriver, et in fine, les choses n'arrivent pas, ou la réalité de terrain est extrêmement différente. Et donc c'est ça qui lui a inspiré cette cynicratie. Et moi je suis heureuse que ça te donne un mot pour répondre à la situation actuelle.
Bah, ça nous donne un mot, des mots. Des mots qu'on va continuer à aborder juste après la respiration musicale, où nous allons pouvoir entendre des personnes qui chantent d'autres mots. Est-ce que tu veux nous dire la musique que tu as choisi de nous faire écouter, Jeanne Hénin, pour qu'ensuite on puisse avoir ce moment de respiration et continuer cette balade que nous faisons ensemble.
C'est une chanson de Blik Bassi, un artiste qui a fait un album récemment, largement sur le thème de l'eau. Et toutes les chansons sont inspirées d'histoires de l'eau, du voyage de l'eau. Et il chante dans une des langues parlées au Cameroun.
Merci beaucoup, Jeanne Hénin, qui a écrit le livre « Les mots qu'il nous faut ». On se retrouve juste après ça. Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 et nous sommes toujours en direct de 19h à 20h avec Jeanne Hénin qui a écrit « Les mots qu'il nous faut » aux éditions de La Mer Salée. Et en première partie d'émission, on a pu avoir ce cheminement du « moi vers le nous » de « qui es-tu, quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Et désormais, on va pouvoir aller du nous vers le tout, où on va vraiment se poser la question de savoir comment est-ce que ça participe à transformer la société à son échelle. Et la question des mots, c'est intimement lié à la question des imaginaires, qui est un sujet que nous abordons souvent dans ces émissions, avec l'arbre des imaginaires qui est associé à ce projet, avec la fresque des nouveaux imaginaires, avec tout un tas de personnes qui viennent aussi parler de ces différentes questions. Encore la semaine dernière, on parlait du tourisme et de la façon de transformer le regard qu'on porte sur le voyage. Et moi, j'aimerais, dans un premier temps, avoir un peu ton avis dessus, sur la façon dont les mots participent à transformer le regard que chacun, chacune peut porter sur le monde.
Pour moi, les mots, évidemment, sont une des matières à penser et donc un des outils pour qualifier ce qu'on vit et ce dont on rêve et ce qu'on veut voir advenir. Donc évidemment, c'est un ingrédient clé de ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires ou les nouveaux récits. Après, ce qui est clé pour moi aussi, c'est de voir ce qui existe de l'autre côté des nouveaux récits. Et je suis aussi très vigilante à ça. C'est-à-dire que s'il y a d'une part les nouveaux récits avec ce qu'on veut voir advenir et inventer, il y a aussi d'une autre part des mots qui nous sont imposés par un système de pensée et par des courants dominants qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et donc je trouve ça important d'avoir aussi une vigilance sur les mots qui nous sont imposés et notamment un regard critique aussi. Donc je vous invite aussi à regarder le travail de Nicolas Framont qui a travaillé sur les mots et ce qu'ils veulent dire et quels mots nous sont imposés pour justement nous faire accepter certaines réalités ou certaines installations sociétales où une classe en domine une autre. Donc ça, c'est important aussi pour moi avant de regarder les nouveaux imaginaires, de se dire est-ce qu'on répond aussi au langage qu'on nous donne aujourd'hui. Et est-ce qu'on est en capacité de donner des mots qui peuvent répondre à ce langage, de dire, eh bien, oui, c'est synicratie, par exemple, dont qu'on citait tout à l'heure, c'est une façon de répondre, externité, c'en est une autre, sauveterre, pour répondre au terme d'éco-terroriste, c'en est une autre. Mmh. Ceci étant dit, le côté des nouveaux imaginaires, moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est d'avoir des mots qui viennent de réalités vécues. C'est-à-dire que les nouveaux imaginaires ne viennent pas du cerveau brillant d'un chercheur ou d'un auteur prolifique et merveilleux qui propose quelque chose, mais qui viennent aussi de réalités vécues par les uns et les autres. Parce qu'en fait, je pense que si on travaille l'imaginaire, si chacun travaille son imaginaire, et si chacun s'autorise à partir de ce qu'il vit à avoir des espaces ouverts dans lesquels on peut jouer à l'imaginaire, travailler l'imaginaire, mais en partant de ce que l'on vit, là, on va créer des nouveaux récits et des nouvelles histoires qui viennent de réalité. Et on ne va pas créer quelque chose qui soit déconnecté. Dans combien d'ateliers est-ce qu'on vous propose de créer un futur et tous les participants mettent des arbres sur l'autoroute et j'ai l'impression que c'est des scénarios similaires qui peuvent sortir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, et je trouve que tous les mouvements sont intéressants dans le domaine des nouveaux récits, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de créer des nouveaux récits, des nouvelles histoires à partir de réalités vécues et d'émotions vécues par les personnes et que les personnes aient la puissance de créer elles-mêmes. Mmh. Donc, par exemple, on a parfois réinvité des personnes qui sont venues au bureau des mots pour qu'elles créent ensuite des unes de journaux et qu'elles racontent comment est le futur en 2040 à partir d'un mot qu'elles ont créé, à partir d'une de leurs réalités. Et la saveur en est tout autre.
Là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu dis. Et il se trouve qu'avec un cousin qui s'appelle Loïc, on a créé un site internet que je vous invite à aller regarder, qui s'appelle L'Arbre des Imaginaires, où on a construit toute une allégorie autour de l'arbre pour pouvoir faire émerger des nouveaux imaginaires, mais aussi repenser, décomposer, déconstruire un certain nombre d'imaginaires qui sont existants, donc qui sont absolument dans ce que tu viens de nous partager, avec, pour ce qui concerne les concepts dominants aujourd'hui, mais à repenser, c'était le concept des herbes folles. Et au début, on appelait ça des mauvaises herbes, mais on nous a beaucoup attaqué sur pourquoi est-ce que c'est mauvais, alors qu'en fait, c'est peut-être plus qu'un mot en tant que tel peut être devenu fou. Par exemple, la croissance, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. On était des enfants, on a grandi, les arbres, c'est des petites pousses avant qu'ils grandissent. Et donc, il y a un phénomène de croissance qui débute. Mais ensuite, la croissance nous a un peu échappé. Une personne va avoir sa taille adulte, un arbre va aussi avoir sa taille adulte. Et donc, à un moment, elle va stagner, alors que nous, on est resté dans un phénomène de croissance à l'infini. Et donc, c'est aussi peut-être pouvoir se réapproprier un certain nombre de mots qui sont aujourd'hui imposés, mais où on peut se poser la question, ça veut dire quoi vraiment ? Le concept de gagner sa vie, c'est pareil. Le fait de gagner littéralement sa vie, ça veut dire qu'on peut la perdre. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Et inversement à ça, on avait les graines qui sont des petits mots qu'on peut faire pousser pour se les approprier et les faire grandir dans nos imaginaires. Ça, c'est un premier socle de choses sur lesquelles j'avais envie de répondre par rapport à ce que tu proposais. Et la deuxième, c'était ce que tu disais, qui était le fait de se les approprier. Et donc que ça soit une expérience qui soit subjective, qui soit vécue. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir ton regard sur la capacité à avoir pu transformer notre juste place. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le bon mot, on a pu un peu changer le regard qu'on portait sur les choses, on a pu un peu changer le regard qu'on portait sur nous-mêmes, on a pu un peu pivoter, on a pu se positionner autrement. Et donc, le mot a pu nous libérer pour être à un espace où on se dit, en fait, ici, c'est mon endroit. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ?
Alors, moi, j'aurais envie de te répondre deux choses. La première, sur le qui reviendrait à ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet de la liberté que donne la création. C'est-à-dire qu'une fois que ce mot est créé, c'est un bon endroit pour moi pour ce sujet-là. Et la deuxième chose clé pour moi, c'est le lien. Donc en fait, c'est-à-dire que quand ce nouveau mot est créé, pour moi, ce qui permet à d'autres récits d'arriver, ce qui permet à d'autres réalités d'arriver, c'est aussi la vie de ce mot. Si on prend ton expression des herbes folles, quelle est la vie de herbes folles pour d'autres, en fait ? Est-ce que d'autres se sont réappropriés le sujet des herbes folles ? Est-ce que d'autres maintenant voient les mauvaises herbes comme des herbes folles, avec folle étant un terme positif dans cette notion-là ? Donc en fait, c'est à la fois la vie que va avoir le mot après avec d'autres personnes, et c'est aussi est-ce que faire sa part, c'est pas aussi regarder les vies des autres. Et en fait, est-ce qu'une partie de l'action, donc les vies de d'autres gens que moi en fait, des gens que je ne vois pas, et est-ce que je peux pas créer des nouveaux imaginaires ou changer leur réalité autour de moi et avoir une action peut-être plus juste, peut-être au bon endroit, quand je prends conscience de ce que vivent d'autres personnes. Pour moi, il y a une grande partie de ce travail qui est aussi le travail sur le lien. En fait, j'ai l'impression que moi, j'avais l'impression de ne pas assez connaître les réalités vécues par des gens qui sont à quelques kilomètres ou mètres de chez moi, et des gens qui sont à des milliers de kilomètres aussi. Mais donc, j'ai eu besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'ils vivaient. Et c'est en entendant ce qu'ils vivent que se construit une relation. Et du coup, leur vie vient alimenter ce que moi, j'ai comme histoire dans la tête. Comme les contes que j'ai entendus enfant ou comme la série que j'ai regardée à la télé qui vient alimenter quelque chose dans ma tête. Et ces choses qui viennent alimenter des zones de ma tête, elles font partie ensuite de ce que moi, j'ai comme expérience de la vie parce que je l'ai ressenti, parce que j'ai eu, en lisant ce mot, l'expérience d'une émotion. Et donc, ou en regardant cette série, l'expérience d'une émotion, et je me suis sentie proche de la personne, ou je me suis sentie en empathie avec cette personne-là. Et pour moi, c'est ce matériau-là, mais qui est vraiment très, très lié au lien, qui permet aussi la transformation de son action dans quelque chose qui est peut-être moins orienté par classe aussi. Puisque dans quelle mesure est-ce que les actions qu'on met en place, sinon dans le cadre de la bascule écologique, est-ce qu'elles sont juste représentatives de ce qu'on connaît, nous, dans notre environnement proche? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut agir aussi pour d'autres qui auraient moins de facultés d'agir?
Je trouve qu'on sent que ça t'anime, là, dans la dernière réponse, cette question du lien, cette question d'avoir ce mot qui a permis d'ouvrir l'espace. Moi, il y a un mot par rapport au lien qui m'a beaucoup frappé. C'est celui de s'organiquer, ou le mot organiquer, parce que j'avais une espèce d'intuition avant de se dire, mais en fait, tout est hyper systémique, comme dans mon corps. C'est-à-dire que si j'ai mal au dos, je vais aller voir le kiné, mais en fait, il va regarder mes genoux, il va regarder mes pieds, il va regarder si je me tiens droit, il va regarder ma nuque, et on va comprendre que tout se joue et que tout est lié de cette façon-là. Et en même temps, je trouvais que c'était extrêmement difficile de pouvoir le faire comprendre quand on dit oui, mais en fait, si tu veux avoir un changement sur tel sujet, et par exemple le voyage, il va être lié à la façon de se rémunérer, qui va elle-même être liée à la façon dont on va avoir des vacances, et puis le temps qu'on va avoir de vacances, et la façon de payer son loyer pour pouvoir partir loin, etc. Enfin, on comprend bien que ça se construit dans des écosystèmes comme ça, et c'est parfois très difficile de le faire comprendre quand tout se tient dans l'effet papillon. Et donc ce mot-là, il m'a fait du bien. Et je trouve qu'il y en a d'autres hein, dans ton livre, mais le mot « organiqué », je trouve que c'est celui qui montre vraiment les connexions infinies de liens qui se font partout et qui s'organisent, donc, puisque c'est la deuxième partie, c'est la partie « organisme » et la partie « organisée » qui font « organiquer ».
Et ça vient aussi de « organique », du coup, comme « bio » ou « lié à la vie ». Et « organiqué », peut-être on peut le lire, si tu veux.
Oui, alors le terme organiqué, issu de organiser et de organique, rendra un territoire ses capacités d'auto-guérison, d'adaptation, de création, telles que mises en œuvre par les éléments animés de cet écosystème, sans l'intervention massive de l'humain. Pour organiquer, il faut souvent passer par la destruction d'infrastructures physiques ou de pensées produites par l'humain dans sa phase de contrôle aigu, qui visait à soumettre le vivant à un objectif externe à lui-même.
Merci. Oui, c'était pour vous donner l'exemple, la définition dans sa totalité. Et l'idée, c'était vraiment de ça, de rendre le pouvoir à la vie. C'est aussi une question de place et d'humilité, de se dire l'humilité de l'humain, c'est peut-être aussi de se dire, bon, je suis au service de la vie, et qu'est-ce que ça veut dire de se mettre au service de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire aussi bien comment je peux contribuer à une réparation ou à une liberté ou à une auto-guérison de la nature moi-même en tant qu'humain? Comment je peux permettre ces espaces-là? C'est organiquer. Et après, il y a s'organiquer, qui est la version personnelle. C'est se permettre à soi de passer à un mode d'action qui est au service de la vie.
Ça me fait beaucoup rire, moi, parce que l'autre fois, on cherchait, on était en discussion avec ma colocataire et elle me disait, je sais pas où on va placer les gens dans le salon, et on trouvait, et tu vois, c'était pas organique, quoi. Et du coup, mais en même temps, j'aurais pas pu lui dire lâche prise, elle voit pas ce que, enfin, disons que ça lui parle pas tellement. Et du coup, on a trouvé ce mot-là, s'organiquer, et voilà. En fait, ça nous parle. Mais vachement, quoi. Et à chaque fois qu'on bug un peu sur une situation qui n'est pas, en fait, organique, quoi, dans le vivant, on dit, mais organique, en fait, organique. Et en fait, on se comprend comme ça. Et du coup, ça me fait beaucoup rire de voir s'organiquer dans ton livre, parce que sans le lire, en fait, c'est une situation vécue, c'est ce que tu disais. C'est vraiment ça. Tu vis la situation et du coup, tu peux trouver un nouveau mot qui te parle plus que les mots qui existent déjà.
Excellent. Voilà. Ben voilà, ça y est, t'es mûr.
Claire, est-ce que tu as envie de nous faire l'exercice de la question qu'on pose souvent à la fin de l'émission ?
Alors, version marin comme la semaine dernière ou version comme on pose d'habitude ?
Version Claire.
Version Claire, ça marche. Alors, un petit effort de projection, c'est la question de fin d'émission qu'on pose à tous nos invités. C'est de s'imaginer en 2030... Tu es toujours à Marseille. À quoi ressemble cette ville qui a réussi sa transition ? Tu nous disais que tu vivais à Marseille depuis de nombreuses années, mais ça fait combien de temps ?
Ça fait une dizaine d'années que je vis ici et mes enfants ont grandi ici. Donc, comment je vois Marseille en 2030 ? 2030, c'est demain, c'est 5 ans, un peu plus. Donc, moi, ce que je vois, ce que j'ai envie de voir, c'est... Je vois beaucoup d'émergence, mise en lien entre des personnes d'origine sociale très variée pour des projets de transition écologique ou pour des projets sociaux ou pour des projets beaux, tout simplement, on va dire. Donc, j'ai vu l'après-m, je vois des tas d'associations qui se créent. Donc, moi, ce que j'aimerais voir en 2030, enfin, ce qui va arriver, c'est que ces formations très mixtes socialement vont se diffuser et vont être un mode d'action habituel. Et je pense que c'est une possibilité à Marseille, où il y a une histoire tellement compliquée d'action publique et de territoire, que les initiatives mixtes comme ça peuvent prendre une taille et une ampleur beaucoup plus forte. Donc moi, c'est ça que j'aimerais voir. Des tas de projets émergents à droite à gauche en faveur de la transition écologique portés par tout type de personnes du sud de Marseille, du nord de Marseille, des alentours de Marseille, de la Provence, des gens qui arrivent d'ailleurs. Et c'est ça que j'aimerais voir.
Et alors, tout à l'heure, tu nous disais que les mots permettaient d'ouvrir un champ d'action et de liberté, et donc ça pouvait permettre ensuite de se mettre en action. Là, tu nous as projeté l'horizon. Quel est le mot qu'il nous faut pour qu'on y arrive ?
Bon, on l'a dit, hein, il faut s'organiquer. À mon avis, si on s'organique...
Organiquons-nous.
Mais moi, je mettrais aussi, je mettrais comme on met un... Vous savez, comme on met sur un chiffre au carré avec un petit 2 en haut, je mettrais s'organiquer avec en haut le lien. Donc s'organiquer en écosystème.
Bah, pour le coup, c'est pour ça qu'on a pris l'allégorie de la forêt. C'est le fait de faire des liens infinis entre toutes les structures qu'on reçoit semaine après semaine et qui ensuite vont venir rejoindre le mycélium de leurs racines et créer une canopée de leurs projets. Et il va y avoir des petits arbres, des grands arbres, parfois des clairières aussi. L'idée, c'est de pouvoir donner une conception plus sensible de cette façon dont on a chacune notre place spécifique à y prendre. Plutôt que quelque chose qui soit très, pour le coup, organisé de façon mécanique. Là, on est dans un autre rapport. Et on espère que ça vous touche chaque semaine en essayant de montrer ça. Puis après, il y a l'allégorie de l'arbre aussi qui montre son propre écosystème sur la façon dont nous-mêmes, on peut s'identifier pour se rendre compte qu'en fait, on est connecté de plein de liens infinis. Mais parfois, c'est difficile de rendre perceptibles ces réseaux. Et donc l'image de l'arbre, l'image de la forêt, c'est des images qui sont universelles et qui permettent de rendre compte de façon extrêmement simple d'enjeux extrêmement complexes. Je ne sais pas si ça vous parle, enfin j'espère que oui pour Claire, sûr. Mathieu, Lucie, qui font partie des émissions, mais peut-être toi aussi.
Ben oui, on est au bon endroit.
On est au bon endroit. Enfin, ça c'est une belle phrase. Et je voulais, parce que je vois l'heure qui avance, En parlant de bon endroit, je voulais rendre un hommage particulier à une personne qui s'appelle Angelica Latorre, qui n'est jamais passée sur ces ondes, mais qui a été engagée bénévole du projet depuis le tout début de l'année 2021. Donc ça fait 3 ans et demi qu'elle s'est occupée de la communication de l'Arbre des Imaginaires, puis de la Forêt des Possibles. Et quand je l'avais au téléphone ce dimanche, elle disait que ça avait été pour elle une façon de pouvoir découvrir ce qui se passait en France, elle qui venait de Colombie. Et bah écoute, j'espère, Angelica, si tu nous écoutes, que tu auras été au bon endroit à ce moment-là et que tu seras au bon endroit pour ce qui t'attend. Voilà, donc petit clin d'œil pour toi. Et je vois qu'il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Et donc, est-ce que chacun, chacune a un dernier sentiment, puisque c'est des choses qui sont vécues, à partager avant de rendre cette antenne?
Moi, je voulais peut-être parler d'un mot qui m'a marqué dans ton livre et qui est d'ailleurs sur la couverture. Les mots qu'il nous faut, dictionnaire lumi-luttant. Le terme l'humilité, qui est un mot valise entre lutter et lumière et lutter. Donc c'est cette idée d'apporter de la lumière dans ces luttes, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur quand tu présentais tout à l'heure l'artivisme. Donc voilà, tout ce qui est militantisme joyeux. Ça c'est un terme qui m'a marqué et que je compte conserver dans mon langage. Ouais.
Merci Claire. Mathieu ?
Oh bah moi, je te remercie, Jeanne, parce que ça a éveillé ma curiosité. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ça.
Lucille, le temps que tu mettes le micro devant toi qui rend cette émission possible depuis la régie.
Moi, j'ai une petite voix, mais je voulais te remercier pour ce moment qui a éveillé ma curiosité aussi, et c'était tout doux.
Merci Lucille. Jeanne ?
Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, prenez la parole. Prenez la parole, prenez les mots, répondez et allons-y.
Merci Jeanne. Moi j'ai envie de vous dire en fait, lisez le livre, tout simplement. Donc pour celles et ceux qui ne l'auraient toujours pas noté, il s'agit « Les mots qu'il nous faut » aux éditions de la Mer Salée de Jeanne Hénin, et donc qui est effectivement un dictionnaire lumi-luttant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Jeanne.
Merci Jeanne, merci à toutes et tous.
Bonne soirée et Claire, l'émission de la semaine prochaine.
Nous allons recevoir Fibois avec Pierre Berger-Brégé pour parler des forêts durables, ce qui fait sens pour la Forêt des Possibles.
Tout à fait. Merci à vous, merci à Lucille en régie d'avoir rendu l'émission possible. Mathieu, Claire, Jeanne, à bientôt. Bonne soirée.